Bienvenue comme chaque semaine à l'écoute d'Alter Echo, une émission consacrée à l'actualité, aux médias et à l'actualité des médias. Au micro Olivier et aux manettes cette semaine, nous retrouvons Pete. Alter Echo, je ne le répéterai jamais assez, c'est le mercredi soir de 22h à 23h, c'est rediffusé le vendredi à 14h, donc de 14h à 15h. Vous pouvez également retrouver l'émission sur le site internet à l'adresse www.multimania.com/alterecho en un seul mot. Cette semaine, l'actualité a encore été largement dominée par le chaos électoral qui règne aux États-Unis. Plus personne ne sait exactement où on en est. Le système électoral américain, qui est tout sauf démocratique, n'en finit pas de se ridiculiser, et c'est tant mieux. Seulement, nous avons déjà tellement parlé de cette élection présidentielle dans Alter Echo que cette semaine, nous allons faire relâche et laisser la place à d'autres sujets, à savoir des petites bavures dans la presse, la fête du roi, la possible disparition du journal du samedi et la naissance de Pour lire pas lu, un petit journal français de critique des médias. Tout d'abord, commençons par deux détails, deux tout petits dérapages qu'on a pu voir cette semaine dans les médias. Des détails, mais qui en disent long. Il y a d'abord la RTBF qui fournit sur son site internet la retranscription en texte de certaines de ses émissions de radio. Une initiative très utile qui permet aux gens comme moi, qui sont encore dans les bras de Morphée au moment où passe l'émission Matin Première, de profiter des fines analyses et des délicieuses chroniques diffusées à ces heures impossibles. Jeudi dernier, Matin Première recevait Éric Philippard, chercheur au FNRS et professeur au Collège de l'Europe, pour venir éclairer l'auditeur sur le suspense électoral qui se jouait en Floride. Tout d'abord, la journaliste de Matin Première oublie complètement d'expliquer ce que ce monsieur Philippard cherche exactement au FNRS, ce qui expliquerait pourtant en quelle qualité on lui a demandé son avis. Mais la gaffe est ailleurs. Sur le site, on s'aperçoit que pour la RTBF, le FNRS, c'est le Front National de la Recherche Scientifique et non le Fonds National. Et ce n'est pas une petite erreur d'inattention puisque cette gaffe apparaît deux fois dans le texte. On imagine bien que la retranscription des textes radio est une des tâches ingrates à l'RTBF et qu'elle est confiée à d'obscurs stagiaires sous-payés, voire pas payés du tout. Cependant, ce n'est pas une raison et on voit où ce genre de désinvolture peut mener. À propos, la RTBF, c'est bien la radio-télévision des bourdes farfelues, non? Bon. Plus pervers, le petit glissement auquel on a pu assister toujours jeudi dernier dans la Libre Belgique. On pouvait y lire une grosse brève au sujet du passage en appel de Marc Dutroux, qui avait été condamné à 5 ans de prison en première instance pour son évasion du palais de justice de Neuchâtel. Rien de passionnant en soi, si ce n'est que le journaliste Roland Planchard a subtilement modifié la dépêche de l'agence Belga, sur laquelle il s'est basé, pour appeler Dutroux « Monsieur Dutroux », y compris dans le titre de sa brève. A priori, ce n'est pas extrêmement choquant et on pourrait considérer que tant que Dutroux n'a pas été jugé coupable de tous les méfaits qu'on lui reproche, il reste un innocent digne de respect. Simplement, je vous le disais, il y a là un glissement, puisque c'est la première fois que quiconque, y compris l'auteur de cette brève, fait preuve de ce respect-là à l'égard de Marc Dutroux. De plus, ce glissement apparaît sous la plume de Roland Planchard, un journaliste qui joue un rôle actif dans la banalisation des crimes de Dutroux, dans la réhabilitation usurpée de Michel Nioul, dans la négation de l'existence de réseaux pédocriminels en général, et dans l'affaire Dutroux en particulier, et dans le dénigrement de tous ceux qui mènent ou qui appellent à mener les enquêtes jusqu'au bout. Ce glissement est donc loin d'être innocent puisqu'il procède d'une lente banalisation de Dutroux et de l'affaire qui porte son nom. S'il est jugé coupable à l'issue de son procès, il ne faudra pas s'étonner de lire dans la Libre Belgique un j'accuse en faveur de Dutroux signé Monsieur Planchard.
Halte à la violence à la télé, protégeons l'enfance, l'âge de l'innocence, halte à la violence. Dimanche, comme j'étais fatigué d'avoir tricoté des chaussettes, sur la une j'allume la télé pour avoir des nouvelles des vedettes. Je range ma pelote et mes aiguilles, j'ouvre une canette de camomille, ainsi tout en me distrayant, je vais me tenir au courant. Sous son brushing, c'était Madeleine qui faisait claquer ses dents de requin. Il avouait qu'à l'avenir, il n'y aura pas de solution. Si on veut que les salauds s'en tirent, il faudra faire cracher les cons. Je sais, j'avais les mains tremblantes, j'étais gagné par l'épouvante. Si juste avant l'heure du dîner, on programme de telles têtes de nœuds, faut pas jouer les étonnés si nos enfants deviennent dangereux. Halte à la violence à la télé, protégeons l'enfance, l'âge de l'innocence, halte à la violence. L'autre soir j'étais abruti, je me sentais le cerveau tout mou, je mets la télé car je me dis qu'au moins là je comprendrai tout. Bien installé dans mon fauteuil, j'ouvre une canette de tilleul, ainsi tout en me délassant, je vais me tenir au courant. Aussitôt, c'est le cauchemar, car c'est l'heure de Jean-Pierre Gaillard. On ne n'est plus qu'un taureau, le dos planté d'un disboursier, agonisant sous les bravos d'un Jean-Pierre Braillard déchaîné. L'image était si dégoûtante que j'ai recraché mon tilleulement. Si c'est ça le chevalier blanc que l'on propose comme modèle à nos enfants, pas étonnant qu'ils deviennent des criminels. Halte à la violence à la télé, protégeons l'enfance, l'âge de l'innocence, halte à la violence. L'autre jour avec ma gonzesse, on avait un léger coup de barre, en émergeant d'une petite sieste, il fait bien 8h15. Je débouche une canette de thym et j'allume pour voir les crétins. Ainsi tout en récupérant, on va se tenir au courant. Horreur, c'était le gros nazi qui postillonnait ses conneries. Sous l'œil du robot Claire Chazal, il brossait un monde idéal où les cosmopolites comme nous finiront tous au fond d'un trou. Moi qui compte vivre encore un peu, la terreur dresse mes cheveux. Faut pas jouer les innocents quand on programme de telles horreurs. Il est normal que nos enfants un beau jour deviennent dictateurs. Halte à la violence à la télé, protégeons l'enfance, l'âge de l'innocence, halte à la violence.
Pour vous prouver qu'on ne parle pas que d'actualité ancienne, dans cette émission, parlons donc de l'actualité du jour, enfin à condition que vous nous écoutiez le mercredi en direct. C'est aujourd'hui la fête du roi et à cette occasion, la famille royale, moins le roi et la reine, assiste à un tédéum pour fêter l'événement. Beaucoup y voient à juste titre un mépris du principe de la laïcité et de la séparation entre l'Église et l'État. Devant les nombreuses protestations qui se sont élevées, le ministre de l'Intérieur va charger une commission de sages d'étudier la possibilité de célébrer dorénavant la fête du roi par une cérémonie œcuménique à laquelle participeraient des représentants de toutes les religions reconnues ainsi que de la laïcité. Si la famille royale tient à sa messe catholique, elle la célébrerait alors en privé comme il se doit. Pour fêter le roi, Alter Echo a dépêché ce matin un envoyé spécial à la place des martyrs où manifestait le cercle républicain. Comme son nom l'indique, le cercle républicain n'est pas très royaliste et il souhaiterait ouvrir le débat sur l'abandon de la monarchie en Belgique au profit d'un système républicain. J'ai demandé à Nadia Geerts, l'une des membres fondatrices du cercle républicain, à qui était destinée la gerbe de fleurs qu'elle venait de déposer devant le monument aux martyrs belges.
Alors cette gerbe est destinée aux martyrs de la révolution belge, donc de l'indépendance belge, donc à ceux qui se sont battus pour que la Belgique puisse devenir un peuple indépendant, pour que les citoyens belges puissent s'émanciper de toutes les tutelles, enfin des tutelles étrangères à l'époque. Et nous avons estimé qu'en ce jour où on fêtait le roi, qui est tout de même une des tutelles persistantes de la Belgique encore aujourd'hui, il était opportun de souligner le rôle de ces gens-là qui se sont battus pour une émancipation, justement, et pas pour que survivent encore aujourd'hui des reliefs du passé, enfin d'un système archaïque.
Vous dénoncez également le fait que la séparation de l'Église et de l'État ne soit tout sauf un fait.
Oui, effectivement. Ben ça, je crois que ça s'est vu à de nombreuses occasions. C'est un mystère pour personne que la famille royale est très clairement catholique et d'une branche encore assez conservatrice ou très conservatrice même de l'Église catholique. Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là et à partir du moment où ces opinions se reflètent de façon tellement persistante et tellement prégnante dans leurs décisions de tous les jours, je pense au mariage princier où évidemment ils avaient parfaitement le droit de se marier à l'église, mais ils ont montré dans tous leurs actes lors de ce mariage que la cérémonie officielle pour eux ne comptait pas, que ce qui comptait c'était la cérémonie religieuse. Et je pense c'est important de dénoncer ça et de dire voilà, si le premier fonctionnaire de l'État lui-même discrédite à ce point les opinions, enfin, ou le rôle de l'État ou le rôle des institutions officielles, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de grave là qui se passe et qui n'attire pas assez l'attention. Enfin,
Un des grands obstacles classiques à l'institution d'une république et un des grands arguments pour maintenir la monarchie, c'est l'unité de la Belgique. Si jamais la Belgique devenait une république, est-ce qu'elle éclaterait automatiquement ou pas?
ben, je ne le souhaite pas, mais je pense que si le roi est le seul ciment de la Belgique, je pense que c'est un peu artificiel de le maintenir. Je crois que le maintenir pour cette raison-là, c'est quelque chose de tout à fait, comme je disais, artificiel et à la limite antidémocratique. Moi, je pense, quant à moi, qu'il y a d'autres raisons qui poussent les Belges à rester ensemble. Enfin, je l'espère, mais encore une fois, je pense que si la Belgique devait se séparer, eh bien, il faudrait qu'elle, enfin, ou si la volonté des Belges était de se séparer, il faudrait qu'ils puissent le faire indépendamment de la volonté royale. À ce moment-là, je pense que la Belgique est plutôt le ciment de la monarchie que le contraire.
La manifestation d'aujourd'hui n'est, il faut le dire, pas un franc succès de foule. 10 manifestants selon la police, 12 selon les organisateurs. Est-ce qu'il n'y a que 12 républicains en Belgique?
Non, il n'y a certainement pas que 12 républicains en Belgique. Il y a, bon, déjà, rien qu'au Cercle républicain, nous sommes maintenant une bonne septantaine de membres actifs, plus de nombreux sympathisants. Il ne faut tout de même pas oublier que beaucoup de gens travaillent aujourd'hui. On est un mercredi matin, les gens sont à leur travail et je pense que pour de nombreux d'entre eux, c'est cette raison-là principalement qui les a poussés à ne pas être là.
Qu'est-ce que vous prévoyez comme action dans l'avenir?
Ben, nous allons continuer surtout une action de sensibilisation. Notre premier objectif n'est pas évidemment de couper la tête du roi, ce n'est même pas un objectif du tout. Notre objectif quasi unique, je dirais, est d'instaurer le débat. Donc, j'estime que la monarchie est restée trop longtemps un sujet tabou, on n'en parle pas, on continue à ne pas en parler, à ne pas la remettre en question, ou de façon très très lapidaire en disant voilà, monarchie ou par exemple un président, ce qui est un peu occulté des autres formes de république existantes. On associe trop souvent aussi le républicanisme à l'extrême droite, au Vlaamsblok, etc., ce qui est évidemment pas du tout le cas. Nous ne nous associons pas du tout à ce genre de gens-là, au contraire, nous sommes profondément démocrates. Donc, notre première intention est d'instaurer ce débat, donc de faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour que réellement on puisse discuter ensemble, entre citoyens, de l'opportunité du maintien de cette institution.
Malgré la présence de la RTBF, les médias ne sont pas là en nombre non plus. Est-ce que vous pensez que c'est un sujet tabou, y compris dans les médias?
Je crois que c'est un tabou, effectivement, et je pense que c'est dû en partie, comme je le disais, au fait que trop souvent, républicanisme et extrémisme sont associés. On nous considère trop souvent comme des poseurs de bombes, des antidémocrates, enfin, ce qui est quand même un comble, me semble-t-il. Et je pense qu'effectivement, il y a tout un travail d'information à faire pour dépasser ce tabou, pour dire voilà, on peut être république parce qu'on est démocrate, justement, précisément, et pas au détriment de la démocratie.
Jesus, help me find my proper place.
L'actualité brûlante dans le domaine des médias cette semaine, c'est la menace de disparition du journal du samedi. Le journal du samedi, c'est l'ancien journal du mardi, un hebdomadaire qui a été lancé en juin 1999 par Laurent Arnautz, l'avocat de la famille Benaïssa lors de l'affaire Dutroux, et Michel Bouffiou, anciennement journaliste à Télémoustique. L'hebdomadaire a été lancé avec un minimum de capital et dès le départ, il s'est voulu farouchement indépendant. Mais dès le départ, il a connu également des problèmes dus notamment à cette volonté d'indépendance. Cette semaine, la presse a brièvement parlé des ennuis financiers du journal du samedi. La seule chose qu'on a appris, c'est que Bouffiou et Arnaud demandent d'urgence 5 millions de francs de subvention au ministre de l'Audiovisuel de la Communauté française, Richard Miller, sans quoi leur journal disparaîtra sans doute pour de bon. Comme l'hebdo a une notoriété somme toute assez limitée et surtout que la presse n'a jamais laissé ses fondateurs s'exprimer pendant plus de 2 minutes, j'ai décidé de leur laisser la parole très longuement pour présenter, expliquer et défendre un projet qui mérite de survivre, a fortiori quand on compare au reste de la presse, qu'elle soit quotidienne ou hebdomadaire. J'ai commencé par le commencement, le brusque départ de Michel Bouffiou et Marie-Jeanne Van Eswijk de Télémoustique. Pourquoi ce départ ?
À partir d'un certain moment dans cette collaboration avec Télémoustique, on a estimé que, vu le changement d'orientation du journal qui allait devenir beaucoup plus people, ce qu'il est d'ailleurs redevenu depuis lors, on estimait que dans ce projet rédactionnel-là, on n'était plus tellement à notre place. Et donc on a décidé de partir, chacun avec des projets de bouquins. Marie-Jeanne a fait les dossiers X, qui était un travail de longue haleine, qui est tout aussi un travail vraiment en profondeur. Moi, j'ai entamé un projet de bouquin, et puis bon, il y a le virus du journalisme, en tout cas le goût de l'actualité, qui a conduit, à la suite d'une discussion avec Laurent Arnautz, à ce projet de création d'un hebdomadaire différent de ceux qui existent en matière d'information générale en Belgique.
Laurent Arnautz, oui, comment est né pour vous ce projet-là?
J'allais répondre autour d'une pizza, mais ça c'est pour la petite histoire. Non, en fait, c'est vrai que j'ai été principalement médiatisé ces dernières années dans le cadre de ma profession d'avocat et autour des dossiers que l'on sait. Mais c'est vrai que depuis plus longtemps, que ce soit dans les problématiques autour de l'immigration et de la présence des étrangers en Belgique, que ce soit dans la problématique universitaire, précisément à l'ULB, puisque j'étais président du bureau des étudiants administrateurs, donc en 93. En tout cas, à cette occasion-là, sont nées un certain nombre de préoccupations, disons-le, de nature principalement sociale, c'est-à-dire le souci, en tout cas, d'essayer d'utiliser le droit afin précisément d'améliorer la situation d'un certain nombre de personnes qui ne sont pas dans une situation enviable à l'heure actuelle. Et donc, c'est vrai que nous avons pu constater dans différents cadres où on a pu militer que c'était très difficile, en fait, de faire bouger les choses. Avant de créer le journal du samedi, c'est vrai que j'essayais de le faire comme essaie de le faire tout bon juriste, c'est-à-dire en publiant par-ci par-là ou en essayant d'exercer tout simplement une influence en tant que spécialiste, entre guillemets, du droit dans différentes enceintes. Mais finalement, on se rend compte que la décision finale appartient tout de même au monde politique et que le monde politique reste très dominé, dans une certaine mesure logique, par évidemment la manière dont l'électorat reçoit un certain nombre de messages et surtout dont parlait désir quelque part de l'électorat. Et donc, il fallait donc prendre le problème à l'envers en quelque sorte. Il fallait essayer de rendre les gens conscients d'un certain nombre de choses, rendre les gens plus critiques, peut-être plus exigeants sur certains points démocratiques importants, de façon à ce que le monde politique, de façon tout à fait naturelle, suive à ce moment-là cette pente-là. Et c'est la grande leçon qu'on a pu tirer en temps réel, si l'on peut dire, des événements autour de l'affaire du trou, c'est que lorsque la population s'émeut autour de questions parfois aussi difficiles et techniques que la justice, qui était tout de même un département en déshérence depuis des années, des dizaines d'années au sein de l'État belge, eh bien subitement, le monde politique suit et le monde politique change quand même la priorité, même si on peut dire que pas grand-chose n'a changé encore. Ça, c'est un autre problème. Et donc voilà, donc l'idée en tout cas est de dire, ben, plutôt que de se limiter à vouloir faire évoluer les choses dans le cadre d'un cénacle, je dirais, d'intellectuel ou de politique à différents degrés, eh bien plutôt essayer de conscientiser la population afin que la population puisse entraîner de facto des évolutions politiques majeures.
Dans l'esprit du public, le fait de lancer un journal, a fortiori un magazine, comme l'était le journal du mardi au début, ça coûte très cher. Apparemment, vous, vous avez tenté de le faire, je dirais presque avec des bouts de ficelle. Vous avez commencé tout petit.
Oui, en fait, on a commencé avec ce qui est le capital minimum pour constituer une société anonyme, c'est-à-dire 2,5 millions. Donc, ça paraissait être un pari un peu fou. Ça l'était sans doute. Et,
certains risquent de parler de sous-capitalisation dès le départ.
Oui, bon, mais le pari était en fait de montrer avec les moyens qui étaient les nôtres, donc les moyens d'individus, donc pas de groupes financiers ou de grands groupes de presse, de montrer d'abord qu'il y avait une demande pour autre chose dans le paysage de la presse francophone, et donc de se dire que par la suite, cela permettrait de... d'attirer éventuellement des investisseurs pour développer le projet. Je pense que, en tout cas, en termes de lectorat, on a montré qu'il y avait en effet une demande d'un journal un peu plus critique, un peu moins proche des pouvoirs, et donc, de ce point de vue-là, on est très content et encore même étonné nous-mêmes du succès que ce titre a rencontré, parce qu'il faut quand même rappeler dans quel contexte on se trouve. Le marché de l'édition, enfin, pour la presse francophone, c'est 4 millions de personnes, peut-être un tout petit peu plus. Donc, c'est un marché très très réduit en communauté française de Belgique. Et on a vu dans les années qui ont précédé des grands groupes de presse qui ont injecté des centaines de millions pour lancer des hebdomadaires. Je rappelle l'histoire de l'Instant, par exemple, qui a coûté des centaines de millions et qui n'a pas pu s'imposer. Dans le domaine des quotidiens, on voit bien les problèmes du Matin qui a injecté quand même beaucoup, beaucoup plus d'argent également et qui a du mal... qui a eu du mal dans sa première phase, en tout cas, à pouvoir se développer, en termes de lectorat notamment. Et donc, la première phase de notre projet, ou bien le premier défi, en tout cas, a été relevé. C'était de montrer qu'il y avait des lecteurs pour ce titre. Et puis bon, après, on a été rattrapé par d'autres problèmes qui mettent en péril la vie du journal. Et ces autres problèmes, c'est en fait la pression du monde économique via les recettes publicitaires qui sont très basses depuis le début, voire totalement inexistantes aujourd'hui.
Oui, on a vu au tout début des bonnes intentions de la part des publicitaires qui souhaitaient bonne chance au nouveau titre, qui saluaient ce nouveau canal de démocratie, et puis après ça a rapidement chuté. Aujourd'hui, vous en êtes totalement à zéro, question publicité?
Oui, en fait, il n'y a absolument plus aucune rentrée publicitaire. Et bon, on a essayé d'abord de comprendre les raisons, de communiquer également avec le monde publicitaire, puisque Laurent Arnaud, c'est moi, on a fait une démarche vis-à-vis du monde publicitaire qui était tout à fait nouvelle, c'est-à-dire qu'on est allé rencontrer les décideurs dans ce monde-là. On a rencontré des gens dans les agences, dans des médias planeurs, donc à peu près Sur une période de 3 ou 4 mois, on a rencontré à peu près 100 personnes dans ce milieu-là.
Quelle était la teneur de leur discours?
Eh bien, d'une part, il y avait une incrédulité par rapport au fait de pouvoir développer un titre nouveau qui fasse de l'information générale, donc dans le domaine de la presse écrite, après les échecs précédents qu'il y a eu dans ce secteur. Et puis, on a eu des interrogations aussi, ou en tout cas des questions sur notre lectorat. Le monde publicitaire nous a tenu pendant longtemps un discours qui était bon, ben vous avez des lecteurs, mais qui sont-ils? Alors, on leur a dit qu'on allait faire une étude pour essayer de répondre à cette question. Cette étude a été faite. Et elle a démontré qu'on avait un public jeune, à 80% des gens entre 15 et 44 ans, un public de classe sociale moyenne, moyenne supérieure et avec un niveau d'éducation assez important. Et donc un public très intéressant en termes de pouvoir d'achat et en termes qualitatifs pour le monde publicitaire. Et on croyait, et notre régie publicitaire également, qu'avec cette étude-là, ben, on avait passé un cap qui aurait permis en tout cas de lever un certain nombre de suspicions du monde publicitaire à l'égard de notre titre. Et ça n'a pas été le cas. Alors bon, je crois que l'explication aujourd'hui tient peut-être dans un certain nombre de remarques qu'on a pu entendre dans le monde publicitaire. Par exemple, un jour, quelqu'un nous a dit dans une agence: écoutez, moi j'adore le journal du mardi, mais je pense que vous avez un lectorat, vu votre contenu critique, et bien vous avez un lectorat critique, et donc ce lectorat doit être critique également vis-à-vis de la publicité, donc je ne conseillerais pas à des clients de venir chez vous. Et je pense que c'est vrai que le monde publicitaire préfère des titres qui sont plus dans une norme, qui peuvent peut-être s'adresser plus à la population dans son ensemble, plutôt qu'à des parties de la population ciblées. Et le monde publicitaire préfère également des titres où il y a un environnement qu'il juge plus positif. Donc qu'il y ait du rédactionnel moins critique qui entoure les publicités, en fait.
Le journal du mardi et plus tard le journal du samedi a été comparé à ce point de vue-là, notamment à Marianne, qui aussi dans un édito a expliqué la même chose. Pourtant, Marianne survit. Charlie Hebdo, notamment aussi, survit totalement sans aucune publicité chez eux. C'est un principe. Est-ce que c'est uniquement une question de taille du marché?
Non, je crois qu'il y a une donnée fondamentale qui nous rend beaucoup plus fragiles au niveau belge, et ce n'est pas uniquement le cas de publications plus spéciales comme la nôtre, c'est tout simplement que le marché est moins grand. Or, pour un hebdomadaire, le travail au départ à fournir par les journalistes, donc le travail à rémunérer par l'éditeur, est le même. C'est-à-dire qu'il faut un contenu qui est aussi varié, qui est aussi intéressant, etc. Or, si on doit amortir ce coût de production-là, qui est le gros du coût de production d'un hebdomadaire, sur 4 millions de personnes ou sur 55 millions de personnes, comme c'est le cas en France, c'est évidemment totalement différent. Et donc c'est vrai que Marianne, je crois qu'ils vendent environ 260 000 en France. Il faut savoir que si nous reportons notre lectorat actuel sur la France, donc en reportant les proportions, nous on est à 190 000, donc on n'est pas vraiment loin de leur résultat.
Non, Charlie Hebdo est à 70 000 et il survit.
Voilà, tout à fait. Donc je crois que... Il y a une taille critique qu'on doit atteindre, que c'est vrai que nous n'avons pas véritablement obtenu encore ici sur le plan francophone.
Elle serait de combien en communauté française?
Mais je crois qu'en communauté française, nous on a toujours dit qu'avec 15 000 ventes, on avait un projet qui était tout à fait non seulement viable, mais déjà bénéficiaire.
Sans publicité?
Actuellement, sans publicité. Disons qu'au départ, quand on citait le chiffre de 15 000 ventes, il fallait un apport publicitaire qui était de l'ordre de 30%. Actuellement, on pourrait être en équilibre entre 13 et 15 000 ventes, mais plutôt 13 000 ventes sans publicité et sans apport public. Si on a un apport public, comme on le demande actuellement à la communauté française, ça signifierait que ce seuil de rentabilité, donc ce break-even, comme on dit, est encore un peu plus bas, donc se situerait aux alentours de 9 à 10 000 ventes.
Et le journal du samedi aujourd'hui est à combien de ventes?
Donc en fait, nous avons à l'heure actuelle une moyenne depuis la création du journal qui se situe aux alentours de 8 000, et actuellement nous sommes aux alentours de 6 000 ventes par numéro, par semaine, sachant que nous avons perdu 20% de lectorat en fait à l'occasion de notre changement de nom et au changement de prix, puisque nous avons doublé le prix.
Et en plus, tout ça a été assorti d'une interruption qui a quand même duré quelques semaines, donc.
Oui, donc c'est une interruption qui a au total duré quand même 6 à 7 semaines, ce qui est quand même assez long. Et nous n'avons pas eu ni les moyens de faire la moindre promotion pour notre retour, d'une part, mais de surcroît, les médias, les grands médias en particulier, comme la télévision, n'ont pas jugé utile de signaler cette reprise ainsi que la nouvelle formule que nous avions élaborée. Ce qui veut dire que une part importante de notre lectorat, au moment où je vous parle d'ailleurs, n'est toujours pas au courant ni du changement de nom, ni du changement de jour, de prix, etc. Parce que tout simplement, ils ne nous achètent plus pour cette raison-là. Et comble de malchance, si on peut dire, mais faut-il appeler ça de la malchance, c'est qu'au même moment, c'est-à-dire début septembre, battait leur plein les promotions du Soir Illustré qui s'échangeaient en Soir Magazine. Il faut savoir que le rédacteur en chef du Soir Magazine a pu aller expliquer son nouveau projet sur les plateaux télé aux journaux télévisés. Nous, on n'a même pas eu une séquence. Et Le Matin, qui lui aussi donc venait avec, je dirais, la présentation de son nouveau projet qui est reparu, je crois, le 15 août. Voilà. Donc, c'est vrai que ces résultats, ces 20% de baisse pour nous sont véritablement négligeables par rapport à l'effort tout de même énorme d'adaptation qu'on a demandé à notre lectorat et au fait que la plupart des gens. Déjà au départ, ne savait pas qu'on existait. Il ne faut pas oublier qu'on a des ventes très élevées par rapport à notre taux de notoriété. C'est-à-dire que dans sa globalité, peu de gens en communauté française encore sont au courant de notre existence, de ce qu'on est, etc. Pourquoi? Parce qu'à aucun moment depuis la création du journal, nous n'avons pu faire une véritable promotion, une véritable publicité. Il faut quand même savoir que dans le contexte actuel, c'est quelque chose de complètement fou. Je veux dire, il n'y a aucun média à l'heure actuelle qui ne fait pas de publicité. Et donc tous les médias qui nous entourent en font. Et là, on en arrive à un troisième problème qui est celui de la distorsion de concurrence, en quelque sorte, qui existe et qui est amplifiée, en quelque sorte, par les aides publiques à la presse. Nous avons demandé et nous demandons donc une aide publique. Donc nous ne sommes pas du tout contre le principe.
C'est un des enjeux de la crise actuelle, même.
Ah oui, tout à fait, puisque nous demandons ça justement pour pouvoir passer la passe difficile qui est la nôtre. Je rappelle pourquoi est-ce qu'on demande un complément après avoir déjà reçu 2,5 millions courant le mois de juillet. C'est tout simplement parce que nous avons demandé un certain montant au mois de juillet en raison du fait que nous espérions avoir des rentrées publicitaires suite à une étude de lectorat qui, comme Michel Bouffioux vient de vous le dire, était très favorable. Nous n'avons pas eu ces contrats publicitaires, nous avons donc dû revoir nos plans, et c'est suite à cela que nous demandons donc un complément qui nous permette effectivement, au moins pendant la période de création, en quelque sorte, de développement du titre, de ne pas subir le diktat publicitaire, c'est-à-dire pendant les 3 premières années. Vous savez, après 3 ans, si on a trouvé un lectorat sans la publicité sera obligée de suivre plus ou moins. Mais entre-temps, c'est eux qui décident si on existe ou pas, et c'est à ça que doit servir en principe l'argent de l'aide à la presse, du moins c'est l'idée que nous défendons. Alors, pour nous, il y a une distorsion de concurrence. Pourquoi? Parce qu'on doit constater que les grands groupes de presse, et puis il y a les quotidiens à ce moment-là, mais aussi des hebdos potentiellement, via ce qu'on appelle l'aide compensatoire radio, reçoivent des dizaines de millions, alors qu'ils n'en ont besoin ni en tant que groupe. Enfin, pas un besoin aussi fondamental que nous, en tout cas, ni en tant que groupe, puisqu'ils ont des très gros moyens qui parfois se chiffrent en milliards, d'une part, et d'autre part, parce qu'ils bénéficient de rentrées publicitaires. Et donc, ça nous pose un problème, parce que nous sommes le petit canard là-dedans, qui n'avons pas de gros moyens, qui n'avons pas de rentrées publicitaires, et qui, de surcroît, recevons une aide à la presse qui est tout à fait disproportionnée par rapport à celle que reçoivent les autres. Parce qu'évidemment, on nous dira, oui, mais par exemple, le groupe Rossel reçoit de l'aide à la presse pour le quotidien et pas pour l'hebdomadaire, le Soir Magazine. Mais chacun sait que dans le cadre d'un groupe, évidemment, l'argent qu'on ne doit pas mettre à un endroit, on peut le mettre ailleurs. Et donc l'argent que le groupe Rossel ne doit pas mettre dans le quotidien, il peut le mettre évidemment dans l'hebdomadaire. Et donc c'est un peu paradoxal pour nous de ne pas avoir les sous pour faire la moindre campagne de promotion, pour dire qu'on existe, et de voir que d'autres titres, avec l'argent du contribuable, de facto, peuvent effectivement dépenser des dizaines de millions en campagne de communication qui nous écrase encore un peu plus.
En plus, l'aide à la presse est censée favoriser la démocratie, justement.
C'est-à-dire qu'en principe, si on analyse un peu la finalité, bon, qu'est-ce qui peut pousser une autorité publique qui est financée évidemment par les contributions des citoyens, qu'est-ce qui peut pousser une autorité publique à soutenir des entreprises, de presse en particulier, ça ne doit pas être, je suppose, d'enrichir des actionnaires. L'idée, c'est d'entretenir justement une diversité. Et ce qui risque de se passer actuellement, c'est que finalement, l'aide à la presse, évidemment, sera maintenue pour ceux qui en bénéficient déjà, mais que nous disparaîtrons éventuellement, et ça en prend malheureusement le chemin, hein, avant que nous puissions véritablement en bénéficier, sans véritablement en bénéficier, alors que nous représentons, pardon, un élément essentiel de cette diversité. Pour une raison tout à fait objective et que chacun pourra vérifier, c'est que nous sommes le seul hebdomadaire à l'heure actuelle en Belgique. Encore, depuis que Le Soir Magazine précisément est apparu dans sa nouvelle formule, à assurer une rédaction entièrement belge au niveau international et au niveau culturel. Donc, dans tous les autres titres, sauf certains quotidiens actuellement, c'est vrai que le contenu culturel est en partie repiqué de titres français. Bon, dans le cas du Soir Magazine, c'est le groupe Hersant. D'une part, alors d'autre part, au niveau international également, vous aurez pu constater par exemple que les comptes rendus concernant la Birmanie étaient totalement différents dans le journal du samedi, qui a une rédaction belge, qui avait un point de vue belge là-dessus, et dans le Vif l'Express par exemple, qui a une rédaction qui, de ce point de vue-là, repliquait les articles français et qui reflétait évidemment une vision qui était plus conforme, je dirais, au vu de l'État français sur ce sujet-là.
Michel Bouffioux, Laurent Arnaud parlait tout à l'heure de la sourde oreille qu'a fait le reste de la presse au journal du samedi. Certains diront que c'est un peu dû en partie à votre personnalité. Vous déplaisez au reste de la presse parce que trop remuant, parce que trop. D'ailleurs, vous ne vous êtes pas privé vous-même non plus de le souligner dans beaucoup d'éditoriaux de votre journal. On a retrouvé cette volonté de différence, cette volonté de déranger. Est-ce que vous vous êtes pas un peu coulé vous-même là-dedans?
Oh, bah écoutez, je pense que ce qui est important, c'est d'être cohérent avec soi-même. Donc, non, je pense que c'est normal que quelque part, en termes de concurrence, que la presse, que les grands médias n'aient pas toujours eu envie de nous relayer. Peut-être est-ce tout simplement parce que nous témoignons avec très peu de moyens de ce qui ne se fait pas ou ce qui ne se fait plus ailleurs en termes de démarche journalistique. Et donc, je pense que quelque part, c'est peut-être pas toujours confraternel de la part de certains médias d'avoir refusé de relayer parfois certaines informations qui étaient présentes dans le journal du mardi puis le journal du samedi et qui apportaient des véritables éclairages nouveaux par rapport à l'actualité. On avait même vu des débats d'ailleurs qu'on a lancés ici. Alors, je pense par exemple à tout ce qui a été dit autour du syndrome des Balkans, dont souffrent donc des militaires qui sont intervenus donc en ex-Yougoslavie. Tout ce débat-là a été lancé dans le journal du mardi, et puis on a vu après des débats à la télévision, des papiers dans d'autres journaux où on faisait mine de découvrir cette affaire, comme si on n'en avait jamais parlé par ailleurs. C'est pas très confraternel. Maintenant, je pense que c'est malheureusement dans l'ordre des choses. Donc, moi, je crois que ce qui est essentiel pour nous, c'est d'avoir pu développer un projet, et j'espère d'ailleurs qu'on pourra continuer à le faire, un projet qui est cohérent et d'avoir pu maintenir depuis le début une ligne rédactionnelle avec très très peu de moyens, mais cette ligne rédactionnelle est restée. Ce qui était prévu au départ. Et donc, pour nous, si ça s'arrête à ce stade, on est en tout cas content d'avoir pu développer ce qu'on avait envie de développer. On sait, par comparaison avec ce qui se fait par ailleurs, que le journal du mardi puis le journal du samedi ont apporté quelque chose de véritablement différent. Et donc c'était le but.
Dans l'immédiat, vous l'avez dit, c'est la crise. Vous allez paraître. Le journal du samedi va paraître samedi.
Disons que je souhaite peut-être d'abord ajouter quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit, à savoir que y a un aspect aussi qui est particulier tout de même à ce projet, c'est que je crois que c'est la première fois depuis peut-être plus d'un demi-siècle que se crée un journal de journalistes. C'est vrai que les individus, à savoir Michel et moi, mais aussi les autres personnes, parce que c'est vrai que c'est pas uniquement les fondateurs, je crois que ce projet a été et reste porté en réalité par l'ensemble des journalistes qui ont accepté tous les inconvénients qui parfois existaient à travailler ici, eh bien c'est tout à fait unique, je crois, dans les annales des médias en Belgique, à tel point qu'à un certain moment j'étais interrogé à ce propos par une journaliste flamande qui me demandait, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème déontologique à ce que nous cumulions les fonctions de directeur de l'éditeur, puisque nous dirigeons l'éditeur, forcément, qui est la société anonyme qui édite le journal, et que vous soyez à la fois rédacteur en chef. Et on a éclaté de rire, parce qu'évidemment, on a dit, mais c'est une situation, au contraire, qui est d'une incroyable, qui est très saine, puisque c'est vrai qu'à la fois, ici, les moyens économiques sont vraiment mis au service, forcément, de la rédaction. Donc ça, c'est un élément tout de même important qu'on pouvait souligner. Alors, en ce qui concerne l'avenir immédiat, disons que nous allons certainement avoir un problème pour samedi, puisque nous sommes véritablement à court d'argent, donc nous n'aurons pas la possibilité de financer le prochain numéro, sauf, je dirais, coup de tonnerre au niveau de la communauté française. Je rappelle que nous aurons donc une réponse de Monsieur le ministre Miller sous peu. Donc tout espoir n'est pas perdu, mais ça dépend de plusieurs éléments. Donc il y a les négociations en cours, il y a aussi la nécessité, je crois, que toutes les personnes qui se sont exprimées dans le journal et qui ont pu l'apprécier au cours de cette année et demie maintenant, se mobilisent, c'est-à-dire fassent au moins connaître par les moyens qui sont les leurs, leur attachement, pas nécessairement à la ligne du journal, parce que ça c'est encore quelque chose qu'on peut discuter éventuellement, mais en tout cas à la nécessité de sa subsistance en tant qu'espace d'expression démocratique en Belgique. Donc je crois que ça c'est un élément tout à fait fondamental, y compris pour nous, pour trouver aussi l'énergie, ce qui n'est pas toujours facile quand même, de continuer un combat qui pour certains, paraît toujours aussi surréaliste qu'il ne l'était il y a un an. Donc voilà. Mais ce que nous allons faire de toute façon, c'est que nous annonçons la création d'un site web qui, quoi qu'il arrive, permettra à tout le moins d'informer nos lecteurs, nos sympathisants de la manière dont les choses vont se poursuivre. Donc ils pourront tous les jours là-dessus savoir quelles sont les évolutions au niveau de la survie ou de la reprise, etc., du journal, d'une part. Et d'autre part, il n'est pas impossible que nous puissions, par ce média-là, continuer une certaine activité éditoriale également, qui à ce moment-là prendra de toute façon une autre forme, au moins pendant une durée de suspension éventuelle. Qui serait à ce moment-là l'idée de mettre à disposition des journalistes de ce pays qui n'ont pas toujours la possibilité de dire ce qu'ils veulent dans leurs propres médias, pour n'importe quelle raison, de s'exprimer sans coût, ni pour nous, ni pour eux, dans le cadre donc de ce site web qui sera un site assez interactif et qui permettra justement, je dirais, de façon très souple, d'insérer des informations au départ de n'importe quel endroit du pays.
La décision du ministre Miller en ce qui concerne l'aide de 5 millions de francs tombera demain jeudi à l'issue du Conseil des ministres de la communauté française. Si cette aide est refusée, le journal du samedi pourra toujours se tourner vers d'éventuels investisseurs privés avec lesquels il est en pourparlers. Mais il est évident que si la subvention est accordée, ces investisseurs seront d'autant plus motivés pour entrer dans le projet. La survie du JDS se joue donc demain et une manifestation de soutien aura lieu à 9h moins le quart, place Surlet de Chokier, tout près de la place Madou, devant les locaux du gouvernement de la communauté française, où se tiendra le Conseil des ministres.
Ce matin, le marchand de coco n'est pas passé filles. Et au lieu de se rendre à l'école, tous les vieillards se sont amusés à casser des huîtres sur le rebord du trottoir avec des démonteux. Sur ma porte, j'ai marqué absent pour la journée. Dehors, il fait mauvais, il pleut des chats et des chiens. Les cinémas sont fermés, c'est la grève des clowns. Alors je reste à la fenêtre à regarder passer les camions militaires. Et je décroche le téléphone et je regarde les postières par le trou de l'écouteur. Tu as la splendeur d'un intermède première classe. Tu as la splendeur d'un intermède première classe. Et moi, je suis timide comme un enfant mort-né. Et moi, je suis timide comme un enfant mort-né. Oh, timide mort-né. Dans X temps, il se peut que les lamelles de mes semelles se déconnectent et que tu les prennes sur la gueule. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, et je t'offre ma vie, et je t'offre mon corps si judiciaire et mon béri béri, je t'aime. Ce matin, les enfants ont cassé leur vélo. En sortant de mon lit, j'écoutais les morceaux. C'est alors que j'ai vu le regard inhumain de ton amant maudit qui me lorgnait comme une bête à travers les pas du ventilateur, tout en te faisant l'amour dans une baignoire remplie de choux de garni. Tu as la splendeur, un enterrement de première classe. Tu as la splendeur, un enterrement de première classe. Et moi, je suis timide comme un enfant mort-né. Et moi, je suis timide comme un enfant mort-né. Oh, timide mort-né. Dans l'instant, il se peut que les lamelles de mes semelles se déconnectent et que tu les prennes sur la gueule. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, et je t'offre ma vie, et je t'offre mon corps, mon casque judiciaire et mon béri-béri, je t'aime.
Qui a vu, pas vu, pas pris? Si vous êtes un fidèle du cinéma Nova, il y a des chances que vous ayez vu ce délicieux documentaire sur la télévision française et ses travers. Sinon, rassurez-vous, je suis là pour vous faire un petit topo. Pierre Carle est un journaliste impertinent, autant dire un paradoxe ou une rareté. Canal Plus lui avait commandé un documentaire sur les dessous de la télé française sur le thème « Pouvoir et médias ». Carle a si bien tapé dans le mille qu'il a ridiculisé tout le gratin des présentateurs français le temps d'un petit film de 26 minutes. C'était même si bon et si vrai que Canal a refusé le sujet sans explication cohérente. Manque de bol, Pierre Carle a enregistré en vidéo tous ses contacts avec la chaîne câblée et il a mélangé le reportage initial et l'histoire de sa censure pour en faire un film d'une heure et demie qui s'appelle « Pas vu, pas pris ». Je ne vais pas vous le raconter, mais sachez que c'est brillant. Évidemment, il n'a pas trouvé de distributeur, du coup Charlie Hebdo a monté l'association Pourvoir Pas Vu qui a lancé une souscription pour que le film soit visible dans les salles. Aujourd'hui, Pierre Carle reparaît, le couteau entre les dents. Cette fois, il a décidé de s'attaquer tous azimuts à l'ensemble des médias français et en particulier aux stars de la plume et du petit écran. En juin dernier, les manifestants de Millau, mais aussi les spectateurs du Nova, ont pu découvrir le numéro 0 de Pour lire pas lu, PLPL en abrégé, un petit mensuel lancé par Carle et ses copains. On trouve d'ailleurs du beau monde dans le comité de parrainage, notamment Noam Chomsky, Serge Halimi, Noël Godin et Jean Bricmont. Le moins qu'on puisse dire, c'est que PLPL décoiffe, la plume est trempée dans le vitriol et elle n'épargne personne. Dans le numéro 0, PLPL s'en prenait notamment à Philippe Val, le rédacteur en chef de Charlie Hebdo, qui était pourtant censé être un copain. Philippe Val nous a expliqué dans l'interview de la semaine dernière son opinion sur Pour lire pas lu. Pour lui, Carle et Halimi sont des purs qui voient le monde en noir et blanc, divisé en bon et en méchant. Et si on n'est pas bon à 100%, c'est qu'on est forcément un méchant. Il exprimait pourtant son admiration pour le travail intellectuel qu'ils fournissent, notamment dans PLPL. À la lecture du numéro 1 de Pour lire pas lu qui vient de sortir, on ne peut que donner raison à Val. Le ton est effectivement hargneux, voire haineux, et la pureté est de mise. Un exemple, pour lire Palus, on prend cette fois à l'organisation ATTAC, qui milite en faveur de la taxe Tobin, qui serait prélevée sur les mouvements de capitaux et dont le bénéfice servirait à soulager la misère dans le tiers-monde. A priori, rien à redire. Eh bien non, pour lire Palus n'est pas content, parce que ATTAC a publié une série de petits livres qui illustrent son combat, et pour rendre ces petits livres accessibles au plus grand nombre, elle a choisi de les publier aux éditions Mille et Une Nuits, dont les publications sont largement distribuées pour le prix dérisoire de 10 francs français. Seulement, les éditions Mille et Une Nuits font partie du groupe Hachette, qui appartient lui-même au groupe Matra Hachette Lagardère, qui par ailleurs fabrique et vend des armes, notamment des missiles. Du coup, PLPL attaque attaque. On se demande si Pierre Carl aurait préféré une publication confidentielle et chère des ouvrages d'attaque. En tout cas, il ne précise pas quelle était l'alternative qu'il aurait trouvée grâce à ses yeux. Voilà juste un petit exemple de cette pureté dont parlait Philippe Val. Pourtant, le travail de critique des médias que mène Pour lire Palus est brillant et il n'est pas question ici de le nier. Le numéro 1 nous propose de plonger dans le monde réel, c'est-à-dire dans les coulisses pas toujours avouables du journal Le Monde. Et là, la démonstration est brillante. Le Monde est généralement considéré comme le quotidien de référence en France et même en Europe. Il est souvent cité en exemple pour son sérieux et son objectivité. En 3 pages, Pour lire Palus détruit brillamment cette image virginale en mettant en lumière toutes les compromissions auxquelles Le Monde s'est livré avec les plus grands groupes industriels de France. Quelques exemples. Pour commencer, Jean-Luc Lagardère, le marchand d'armes. En 1997, Le Monde annonce à tort que Lagardère est poursuivi en justice. Lagardère fait condamner Le Monde à 200 000 francs français de dommages et intérêts et annule un accord selon lequel le journal du dimanche, qui appartient à son groupe, serait imprimé sur les rotatives du Monde. Le Monde s'offusque de cette attaque dans ses colonnes. Il s'offusque de cette attaque donc contre son indépendance et il s'offusque de l'influence des groupes industriels sur les médias. Mais quelques mois plus tard, revirement, Le Monde présente ses excuses à Lagardère, le contentieux est clos et l'imprimerie du Monde se met à imprimer le journal du dimanche. Depuis lors, accuse PLPL, les partenariats, connivence et complaisance entre le quotidien et le marchand d'armes se multiplient. Le Monde, par exemple, n'a consacré que 11 lignes à un redressement fiscal dont a fait l'objet Jean-Luc Lagardère. Il a également fermé les yeux sur les conditions douteuses qui ont permis à Lagardère d'acquérir le groupe aérospatial. Hachette a pris une participation de 34% dans Le Monde Interactif, la filiale multimédia du Monde. Le Monde a aussi racheté le Midi Libre, quotidien régional, grâce à l'accord de Hachette. Et on lit dans le journal Les Échos que Lagardère en était bien content, puisque le Midi Libre tombait ainsi dans des mains amies. Jean-Marie Colombani, le directeur du Monde, a d'ailleurs confirmé que cette reprise s'était faite dans une ambiance constructive avec Hachette. Enfin, Lagardère a l'intention de lancer une chaîne de télé à dominante économique et financière, et il compte évidemment y associer Le Monde. Autre relation qui sent le soufre, celle qui lie Le Monde à TF1, la chaîne de télé qui propage la vision du Monde de Bouygues, le grand marchand de béton. Le Monde et TF1 se sont découverts proches lors de la campagne pour les présidentielles de 1995. Tous deux ont tellement soutenu Édouard Balladur que ça a fini par se voir. Depuis lors, c'est la lune de miel. D'une part, TF1 finance, pour ainsi dire, le supplément télé du Monde. D'après PLPL, entre mai 97 et septembre 2000, TF1 a pour ainsi dire monopolisé l'espace publicitaire du supplément à 21 reprises. En échange, Le Monde est plus que gentil lorsqu'il s'agit de parler de TF1. Lorsque TF1 fait dans Le Monde la pub de sa série télé Le Rouge et Le Noir, Le Monde juge même la série géniale, mais s'empresse d'ajouter PLPL, c'est une coïncidence. On lit également dans Pour lire Palus quelques extraits d'articles parus dans Le Monde sur Patrick Lelay, le PDG de TF1, et franchement, c'est plus que révérencieux, c'est carrément lèche-cul. Pour le reste, il y a encore le groupe Vivendi de Jean-Marie Messier et le groupe Artemis de François Pinault qui sont cul et chemise avec Le Monde. Bref, les exemples abondent et Le Monde n'en sort pas grandi. La force de Pour lire Palus, ce sont ses archives. Pour chaque exemple, on lit des petites citations des intéressés, non pas dans leur propre journal ou sur leur propre chaîne, mais en l'occurrence dans des publications économiques ou qui parlent de publicité, celles où ils se sentent à l'aise pour parler gros sous, celles où ils ne sont pas gênés de parler des dessous financiers de leurs petites affaires. En résumé, si Pour lire Palus a des côtés un peu excessifs et un ton souvent adolescent, on ne peut pas nier que son travail s'apparente à une œuvre de salubrité publique. Dommage qu'on ne le trouve pas en librairie, il faut impérativement être abonné. Pour plus d'infos, vous pouvez visiter le site internet www.plpl.org où vous trouverez également quelques extraits de ce premier numéro.
Thank you. quand j'arrive à l'hôpital. Avant de camoufler sous l'uniforme blanc, mon cœur est bourriffé par le monde des rêves. Je vais dire bonjour à Armand, c'est mon vieux préféré. Armand, il met tellement la peau qu'il aimerait encore si seulement il pouvait. Armand, il met tellement le sens qu'il en voudrait encore si seulement il pouvait.
Et voilà, ce sera tout pour cette semaine, mais rassurez-vous, vous retrouverez Alter Echo soit pour la rediffusion vendredi à 14h, soit la semaine prochaine où nous reviendrons comme toutes les semaines. La semaine prochaine, nous essayerons d'insérer Alter Echo dans le thème général de la semaine sur Campus qui sera drogue et culture. Je ne promets rien, mais on fera ce qu'on peut. En attendant, bonne semaine à tous. Merci à Pete pour la technique. À la semaine prochaine.